Bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimitées. Je suis Anaïs Leduc et depuis mes 15 ans, je m'intéresse au comportement humain à travers la philosophie, la psychologie et la psychanalyse. Sur ce podcast, je vous emmène à la découverte de personnalités inspirantes qui ont dépassé leurs croyances afin d'atteindre leurs objectifs. Ils sont explorateurs, aventuriers, comédiens, musiciens, entrepreneurs. Tous et toutes ont opéré à des changements de perception afin de transformer leur destin. Laissons-les nous inspirer afin de dépasser nos propres peurs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes en voie de devenir illimité. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Herveline Denis qui a créé le podcast La petite voix qui interroge les thérapeutes. Donc, je suis très heureuse de se retrouver aujourd'hui, Herveline, pour ce premier épisode.
Ah, bah, écoute, merci à toi, Anaïs, de me faire l'honneur d'être la première invitée de ton podcast au sujet prometteur.
Merci, Herveline. Je souhaite t'interviewer pour savoir comment tu as surpassé les croyances limitantes que tu as pu avoir au cours de ton enfance, de ton adolescence ou même à l'âge adulte. Mm-hmm. Et comment tu les as dépassées et quelle inspiration tu transmets aujourd'hui. Alors, l'idée est d'abord de connaître ton histoire. Mm-hmm. Si tu peux te présenter un petit peu.
Oui, écoute, je m'appelle Herveline Denis. Comme tu l'as dit, j'anime le podcast La Petite Voix. J'ai 44 ans depuis quelques jours. Je suis.
Joyeux anniversaire.
Merci. Je suis donc française, comme on l'entend, mais je vis en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Voilà. Voilà pour la présentation générale.
Super, merci beaucoup. Alors, première question. Donc, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu désirais le plus ? Est-ce que tu avais un rêve ou plusieurs rêves ?
Non, c'est une bonne question et en même temps, c'est une colle, puisque pour tout te dire, j'ai peu de souvenirs de mon enfance. Je ne sais pas quels étaient mes rêves. Je pense que déjà, à l'époque, quand même, j'étais animée par des envies de voyage. Ça, c'était quand même déjà très ancré, notamment parce que mes parents m'ont fait pas mal voyager quand j'étais petite. Donc voilà, ils m'ont donné ce virus du voyage. Et je pense que déjà, j'étais portée vers les autres. Enfin, en tout cas, j'étais curieuse. Voilà, j'avais une grande curiosité. Et d'ailleurs, le premier boulot que j'ai eu envie de faire, c'était d'être journaliste. Parce que vraiment... je trouvais génial de pouvoir, sous couvert d'un métier, finalement assouvir sa curiosité, notamment des autres.
D'accord. Et est-ce que tu as essayé de concrétiser ça ? Comment tu as commencé en fait ?
J'ai pris des voies détournées, mais mon premier souhait professionnel, c'était d'être journaliste. Ça, je crois que c'était à peu près en troisième que j'en ai eu l'idée. Et puis après, j'ai fait un peu évoluer ça quand j'étais au lycée. Et finalement, après, je voulais devenir attachée de presse. Ne me demande pas pourquoi. Je savais même pas exactement en quoi consistait ce métier, mais ça me plaisait, l'idée d'être dans ce monde de la communication et tout ça, qui n'était pas du tout... dans ma famille, c'était pas du tout quelque chose. Mes parents étaient pas du tout dans ce monde-là, mais je sais pas, ça m'attirait. Donc c'est finalement comme ça que j'ai avancé. J'ai fait des études à Paris dans ce sens-là, et puis du coup mes premiers jobs, j'étais donc attachée de presse, et puis après, du coup, ça a dérivé vers de la communication plus globale, du marketing digital. Et ce qui est amusant, c'est que ces dernières années, en fait. C'est pas uniquement vrai dans mon cas, c'est une tendance de ces métiers-là. De plus en plus, tout ce qui touche à la communication et marketing, c'est devenu des métiers vraiment où on produit des contenus, alors beaucoup, beaucoup à l'écrit. Et donc, moi, j'étais ravie parce que finalement, je retombais sur mes pieds et mes premières amours avec cette idée d'être un jour journaliste. Donc mon métier m'a ramenée à ça. Et puis après, il y a eu l'histoire de la petite voix qui est arrivée dans ma vie à 3 ans. Et ben là, j'ai complètement assouvi encore cette envie-là et cette curiosité-là.
Super. Donc, c'est vraiment en fait cette envie de transmettre quelque chose qui t'intéresse, qui te drivait en fait.
C'est ça. Oui, tu as raison, je n'ai pas parlé de la transmission. En fait, je pense qu'il y a deux pans dans cette curiosité-là. Il y a celle d'assouvir d'abord ma propre curiosité. Voilà, je suis la première cliente, en fait, de, notamment, je pense aux rencontres que je fais avec les thérapeutes dans la petite voix. Mais il y a aussi l'idée, et ça, c'est génial, que ces rencontres-là, elles servent à d'autres. Voilà, d'où l'idée, effectivement, de la transmission. Tu as raison de le souligner.
Et alors, une question, est-ce que tu t'es sentie limitée d'une quelconque manière dans ton enfance, dans ton adolescence, par quelque chose, ou est-ce que tu sentais que quelque chose t'empêchait de réaliser donc cette envie-là?
En fait, j'ai envie de te dire oui, toujours, tout le temps, et 40 ans après encore, bien sûr. Bien sûr, par exemple, j'étais très timide quand j'étais ado. Je le suis encore, mais je me soigne. Mais j'étais très timide. J'avais des amis et tout ça, mais je trouvais c'était compliqué pour moi de réussir à m'insérer dans un groupe d'amis, de pas gêner et tout ça. Donc vraiment, il y avait cette idée de la timidité qui était certainement qui m'empêchait de faire des choses. Comme nous tous, hein, j'ai été conditionnée par, je sais pas, la manière dont j'ai été éduquée, la famille dans laquelle j'ai grandi, l'éducation que j'ai reçue, et donc j'ai l'impression que le travail que je fais depuis peut-être plus de 20 ans maintenant, c'est de déconstruire tout ça petit à petit pour aller au noyau de qui je suis vraiment. C'est déconstruire plein de croyances à chaque fois.
Comment, avec le recul, est-ce que tu arrives à savoir quelle conception, en fait, tu avais de toi-même à cette époque-là?
Je pense que... l'idée que j'avais de moi, je voyais bien que j'étais un peu coincée dans cette timidité et tout ça, que je m'empêchais. Je sais pas si c'était aussi net que ça, mais je sentais bien que quelque chose m'empêchait. Et en même temps, par contre, j'ai l'impression que c'était déjà présent très jeune. L'impression quand même que je pouvais croire en moi et que ça allait aller, quoi, que ce serait OK. Je sais pas comment expliquer.
Tu arrivais à surpasser ça malgré tout, parce qu'il y avait quelque chose peut-être de plus fort que toi qui t'emmenait vers cette voie-là.
C'est ça. D'accord. En fait, il y avait rien de spirituel à l'époque. Hein. Je sais que beaucoup de mes invités me disent que déjà petits, ils avaient cette ouverture-là. Alors moi, j'ai aucun souvenir de ça. Et par contre, je pense quand même que j'avais cette idée alors, je ne l'aurais pas du tout exprimé comme ça à l'époque, mais un truc qui faisait que j'avais une petite lumière à l'intérieur et que ce serait OK, quoi.
D'accord. Et alors, après ton bac, je crois que tu as fait un bac ES, on en a
ouais,
parlé.
Oui, absolument. Oh, mon Dieu. Et là, je suis en train de prendre 20 ans dans la tête, puisque bac ES, je ne sais pas à qui ça parle encore, mais effectivement, j'ai fait un bac ES.
Si, moi, c'est encore de ma génération.
Ah, bac merci. ES. Merci, Anaïs, je me sens mieux.
tu m'avais fait part du fait que tu avais fait une école de communication, donc à Paris.
Ouais, absolument.
Et,
ouais.
Et cette période à Paris était compliquée pour toi. Il y avait eu, il me semblait que tu avais fait une dépression et que tu pensais que tu ne parvenais pas, que tu n'allais pas parvenir à dépasser cette dépression.
Ouais. En fait, je pense que ce qui s'est passé, et c'est facile de réécrire l'histoire avec 20 ans de recul, mais donc moi, j'ai débarqué à Paris, j'avais 18 ans. En fait, j'étais pas finie, mais c'est un petit peu de ça. Et je pense que je me sentais assez désarmée face à cette vie, à me lancer seule dans la vie. Alors, je dis pas ça par rapport à la logistique. Voilà, j'avais mon petit studio et j'arrivais à gérer tout ça, mais c'était plus un peu la peur d'être un truc assez paralysant de plonger dans le grand bain. Et effectivement, peu de temps, enfin, dans les toutes premières années de cette vie parisienne, j'y suis restée quand même 10 ans. Il y a eu une période vraiment très, très sombre, vraiment noire, où je me suis sentie très, très mal dans ma peau. Effectivement, très, c'était pas déprimée d'ailleurs, très dépressive. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu mes premiers échanges avec des thérapeutes. J'avais un médecin à l'époque qui me suivait beaucoup. Bon, très franchement, il réglait aussi beaucoup les problèmes avec les somnifères et les anxiolytiques. Hein. J'ai été vraiment dopée à ça pendant quelques années.
Oui, d'accord.
Mais il y a vraiment un truc de... J'étais embourbée dans ça, dans ce mal-être... Et je crois que j'étais tellement mal que, en fait, j'avais aucun recul par rapport à ce que je traversais. C'est-à-dire que je pensais que ce mal-être-là, bah, en fait, ça allait me coller à la peau toute ma vie. Donc, c'est quand même pas... Quand on a 20 ans, c'est pas très réjouissant comme perspective.
C'est pessimiste, en effet.
Ouais, c'est pessimiste, absolument. Et puis surtout... Oui, je pensais que ça, en fait, je pensais que c'était moi. Voilà, je pensais que ce truc-là, cette dépression-là, ce mal-être-là, c'était moi. Et vraiment, ça m'a duré quelques années. Il m'a fallu du temps pour m'en sortir. Et je pense que quand même, j'étais tellement perdue et paumée à l'époque que j'ai pas réussi à remonter aux causes profondes de ça. J'ai fait du travail pourtant avec ce psy, mais sans finalement que ça m'éclaire beaucoup. Voilà. Il a fallu après attendre de nombreuses années pour que je reprenne le travail et que je commence à y voir plus clair. Mais bref, du coup, ouais, c'était pas les premières années parisiennes n'étaient pas cool. Après, quand même, et c'est là où c'est formidable, c'est qu'il y a toujours un sursaut de vie. Et je reviens à ce que tu vois au début où, ben, en fait, on l'a tous au fond de soi, ce petit élan. Ouais, ce bien-être, plutôt. Ouais, voilà. Ouais, on non, a bref. Toujours cette petite lumière, mais parfois vraiment elle allume pas beaucoup hein. Et ça avait été mon cas là pendant ces quelques années, mais en fait c'est là. Et donc du coup, petit à petit, tu sais pas pourquoi un jour tu retrouves un petit peu de joie, un petit peu d'envie, un peu voilà. Et donc je suis sortie de ça et je pense que ça a commencé, enfin, à la fin de mes... Quand j'ai commencé à bosser, en fait, ça m'a fait du bien, j'ai aimé ce que je faisais. Et du coup, ça m'a aidée et j'ai commencé à reprendre un peu pied. Et j'étais toujours pas très bien dans ma peau, mais j'étais plus malheureuse comme les pierres, quoi.
En fait, voilà, tu t'identifiais plus à cette dépression. Mais quel a été le moment de bascule, justement ?
Je pense que c'est ce que je te raconte là. Je pense que c'est le fait d'avoir commencé à bosser et j'ai beaucoup aimé et le boulot et puis surtout j'étais dans une petite agence de relations presse avec des collègues qui sont très vite devenues copines attachées de presse et je me suis sentie bien en fait dans cet environnement, certainement que c'était assez sécurisant pour moi et du coup j'ai retrouvé voilà, je pense que d'être dans ce cadre-là qui me convenait bien, ça m'a rendue plutôt, à défaut d'être heureuse, en tout cas bien mieux.
Et confiante, j'imagine.
Ouais, oui, aussi, absolument, absolument.
D'accord. Et tu disais que tu aimais beaucoup voyager, déjà petite, et que tu avais envie de voyager. Est-ce que tu as fait un voyage qui a pu te conforter justement dans ce mieux-être ?
Alors les voyages, en fait, ils sont venus un petit peu après, c'est-à-dire que donc j'ai fait ces 10 années, presque 10 années de vie à Paris, et quand j'ai quitté Paris, c'est parce que mon dernier job, ça s'était mal passé, et donc là, vraiment, j'en avais ras-le-bol et je voulais partir, et je voulais partir notamment pour voyager et vivre aussi une expérience de vie à l'étranger. Donc là, j'avais... 26, 27 ans et en fait j'ai quitté Paris, j'ai lâché mon appart, j'ai tout laissé et je suis partie et là j'ai enchaîné en fait plusieurs voyages qui étaient géniaux. Un premier en Afrique où j'ai rejoint le frère d'une collègue, donc le mec je crois que je l'ai rencontré une seule fois et on s'est rejoint au Zimbabwe, on a voyagé ensemble 2 mois, est-ce que c'était 2 mois ou 3 mois? Bon, en tout cas, on a fait un immense périple, sac à dos sur les épaules, du Zimbabwe jusqu'au Kenya, en fait, en passant par le Malawi, la Tanzanie,
oh, génial.
Et l'ascension du Kilimandjaro. Ouais, c'était génial. Et c'était, bah, franchement, c'était exactement ce que j'étais venue chercher après ces années de vie parisienne et après cette dernière expérience professionnelle qui s'était mal terminée. Donc, c'était... ça c'était vraiment très chouette, ce moment-là en Afrique.
Tu revivais.
Ouais, complètement. Et puis l'Afrique, enfin en tout cas cette Afrique-là, qui est quand même très loin des guides touristiques et tout ça, c'est assez confrontant, mais dans le bon sens du terme, quoi. Là, j'étais à 1000 lieues de mes repères habituels, donc c'était génial.
Qu'est-ce qui pouvait être déstabilisant parfois justement dans ces pays d'Afrique?
Écoute, tu vois, ce qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est que par exemple quand on était au Zimbabwe, qui était par ailleurs c'est un pays hyper tendu d'un point de vue politique et militaire, hein, donc on faisait attention. En fait, on faisait pas attention, mais c'était potentiellement ça pouvait être un peu dangereux d'y voyager. Et je me rappelle très bien un jour, on était dans la capitale, dans une espèce de des fourgonnettes là où on monte à 15 entassés les uns sur les autres, voilà, et on était dans cette fourgonnette et tout d'un coup, donc moi j'étais complètement squishée entre deux personnes là sur une petite banquette, et en fait m'est venue l'idée que au Zimbabwe à l'époque, je crois que c'était un adulte sur deux ou un adulte sur trois qui était séropositif. Et je me suis dit, bah, ah oui. Là ma cocotte, j'ai pas du tout eu peur, hein, de devenir moi-même séropositive, c'était pas ça. Mais du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, là, ça y est, t'es dans le grand bain, quoi.
Confronté à une maladie,
ouais,
exactement. Qu'on ne connaît pas, et confronté à une population qui n'a pas du tout les mêmes moyens
mais
que
oui,
nous.
Mais oui, absolument. Absolument.
Soigner, ouais,
exactement. Donc voilà, il y aurait plein d'autres trucs, parce qu'enfin, je veux dire, l'Afrique, c'est quand même. C'est une autre planète, quoi. Et c'est magnifique, mais on n'a tellement pas du tout les mêmes codes.
Oui, ben oui, c'est sûr. Mmh. C'est très différent. Et alors, tu es sortie, donc, changée de cette expérience, et vers quoi tu as dérivé ensuite?
Ah, ben alors là, en fait, j'étais vraiment partie dans une phase de voyage, parce que donc après l'Afrique, pardon, je suis partie vivre pendant 6 mois au Pays de Galles, à Cardiff. Et là, c'était génial. J'avais 28
très
ans.
Très différent.
Et en fait, ouais, alors, moins confrontant d'un point de vue culturel. Et clairement, j'y étais avec une amie et une amie française. Et clairement, j'y ai vécu mes années étudiantes que j'avais pas vécu vraiment à Paris, quoi, voilà. Et donc là, on a beaucoup, beaucoup fait la fête, un peu étudié
ça
quand même,
du
parce
bien.
Que c'était le but. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était vraiment des mois de légèreté et de joie et de lâcher prise et de juste de fête, quoi. Voilà, c'était très, très chouette.
Ah, c'est super. Ouais, c'est vrai que la
génial.
Vie étudiante, elle peut offrir ça beaucoup.
Ah, oui.
Et tu m'avais également parlé hors antenne d'un voyage où justement là tu avais fait sauter beaucoup de croyances, ou même tu n'avais carrément même pas de croyances, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine naïveté dans cette expérience. C'était ton voyage du Jura à Dakar en mobylette.
Ah oui, oui. Alors juste pour revenir un tout petit peu en arrière, et comme ça on complète tous les voyages, mais en fait après le Pays de Galles et Cardiff, cette amie avec laquelle je vivais là-bas me dit « Oh, j'ai trop envie d'aller un jour en Nouvelle-Zélande. » Je dis « Bah ok, écoute, si ça te fait plaisir, moi je suis d'accord pour te suivre. » Et donc on est parti, sac à dos sur les épaules, et puis en fait on a fait un mois en Nouvelle-Zélande, ce qui était magnifique. Le pays est vraiment incroyablement beau. Et puis on avait enchaîné sur 2 mois en Australie, et en fait à la fin de ce voyage en Australie, j'ai rencontré Nicolas, qui est mon conjoint en fait, qui est français, jurassien. Et on s'est rencontrés, en fait, en Australie. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc, du coup, je suis rentrée en France et très vite revenue en Australie. On a fini notre voyage tous les deux. Et quand on est revenu en France, on avait déjà très envie de repartir. Et l'idée nous est venue, j'allais dire bêtement, en tout cas, ce serait intéressant de refaire le fil de la conversation ce jour-là. Mais en tout cas, on en est arrivé à l'envie de partir de France à mobylette. Pour aller jusqu'en Afrique. Et donc, on s'est organisé. Je me rappelle avoir négocié avec Peugeot pour les mobylettes et tout ça. Bref, on avait trouvé 2-3 petits partenaires. Et on est parti, effectivement, du Jura jusqu'à Dakar. en mobylette.
Excellent.
Et effectivement, il fallait
dormir en tente.
Alors, on a dormi en tente, je crois, je dirais jusqu'en Mauritanie, à peu près. Et après, une fois en Mauritanie, comme vraiment la vie ne coûte rien, du coup, on a dormi après dans les auberges de jeunesse ou dans les petits hôtels. Mais oui, en fait, parce que du coup, on a quitté la France, on a traversé l'Ardèche. Donc, on est parti du Jura jusqu'à l'Ardèche, le sud de la France. Et puis après, on a traversé toute l'Espagne. En fait, on voulait vraiment faire le truc jusqu'au bout. Donc, on est allé jusqu'à... c'est même pas Gibraltar, je crois que c'est plus loin, c'est Tarifa, tout au sud de l'Espagne. Et puis là, on a pris un petit bateau qui nous a emmenés de l'autre côté. Donc, on est arrivé au Maroc, à Tanger. Et effectivement, tout du long, après, on était dans notre toile de tente. Je me rappelle même au milieu du désert, parce que quand même, du coup... Entre le Maroc et le Sahara, il y a une grosse portion de désert à traverser. Il y a une seule route. Et je me revois dormir. On avait planté la tente. Enfin, d'ailleurs, on ne l'avait pas plantée. On l'avait posée sur un parking d'une station essence. Enfin, parce qu'évidemment, au milieu du désert, il n'y a pas de camping qui vous tende les bras, quoi.
Ah non, il n'y a pas grand-chose, non.
Non, il n'y a pas grand-chose. Absolument, on ne croise pas grand-chose. Donc, effectivement, il fallait être... Heureusement qu'on était naïfs. Parce que si on réfléchit trop, on le fait pas, en fait. Voilà. Et en même temps, franchement, il nous est arrivé quelques petites aventures, voire mes aventures, mais alors rien de grave. Donc finalement, heureusement qu'on s'est pas empêché de le vivre.
Super. Et à ce moment-là, donc durant tous ces voyages, qu'est-ce qui était le plus important pour toi?
Alors là, eh ben, tu sais quoi, je pense que justement, je ne me posais pas trop de questions. J'avais juste envie de profiter.
Voilà. Donc le plus important, c'était de lâcher prise, de juste vivre, en fait.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'à l'époque, je ne me posais même pas la question de ce que c'était que lâcher prise, parce que du coup, justement, j'y étais tellement que...
Qu'on n'y pense plus,
vraiment,
après.
Ouais. Mmh. Non, c'est ça. C'était vraiment de profiter. Et puis... Ben, toujours, je reviens à ce que je disais au début de l'entretien, mais cette curiosité, quoi.
D'accord. Ben oui, c'est super important et c'est super beau sûr. Aussi. C'est,
ouais.
c'est le socle de la vie.
Absolument.
Et alors après, donc, vous avez décidé de partir vivre en Nouvelle-Zélande, hein, c'est bien ça?
Oh là, alors non, en fait, après, il s'est passé... combien d'années il s'est passé? Il s'est passé peut-être... 12 ans, près de 12 ans
ah oui.
en France, où on a eu une vie tout à fait normale et classique. Et moi, j'étais très, très heureuse aussi comme ça. Enfin, voilà, on a fait toutes les étapes normales de la trentaine, acheter une maison, un chat, un chien, avoir des enfants, un job. Voilà, et c'était très bien comme ça. La Nouvelle-Zélande, ça remonte à seulement il y a, ça fait que 2 ans, ça fera 2 ans dans quelques jours. Donc, c'est tout récent. Mais, on savait depuis très longtemps qu'un jour, on viendrait vivre en Nouvelle-Zélande. Ça, par contre, c'était...
Oui, c'était votre...
écrit quasiment depuis le début de l'histoire, ouais. Ouais.
C'était votre projet, oui. Je me souviens, on
Absolument.
Avait parlé
ouais.
hors antenne.
Absolument.
Et alors, justement, est-ce que tu te souviens d'un moment qui a pu être extrêmement difficile pour toi, qui t'a beaucoup perturbé, particulièrement voilà, difficile à vivre, donc une maladie, une dépression ou autre?
Est-ce que tu veux qu'on parle du cancer du sein que j'ai eu il y a 3 ans, peut-être?
Oui, parlons-en.
et pour autant, j'emploierai pas les mots que tu utilises pour en parler. Donc, j'ai eu un cancer du sein qui a été découvert en janvier 2018. En fait, j'ai fait cette mammographie parce que on prévoyait justement de partir et de nous expatrier et qu'on s'était dit on fait un petit check-up pour s'assurer que tout va bien. Et donc, moi, j'y suis allée vraiment. Comme souvent, très naïve et alors vraiment sans peur ni crainte, sauf que le radiologue a trouvé quelque chose et bref, les tests ont confirmé qu'effectivement j'avais un cancer du sein. Et donc là, on s'est dit que notre projet d'expatriation, on allait le reporter de quelques mois. Par contre, c'était clair qu'on n'allait pas l'annuler. Enfin, et d'ailleurs, moi, ça m'a tenue après pendant les traitements parce que du coup, j'ai eu tous les traitements classiques qu'on peut avoir pour un cancer du sein, surtout quand on a 40 ans et que du coup les médecins ne prennent pas de risque et ils te font un peu la totale. Donc j'ai été opérée 2 fois, j'ai eu de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Donc évidemment, il y a eu des moments hyper rudes pendant cette année-là. Hein. Je crois que les pires moments dans ces moments-là, c'est des moments d'attente où, voilà, quand on attend un résultat, où je crois que un des pires moments aussi, ça a été l'attente avant la chimiothérapie. J'avais tellement peur. Enfin, je veux dire, on en entend dire tellement de choses et tout ça. J'étais vraiment très, 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 très flippée avant d'y aller. Finalement, je l'ai très bien supporté. Donc, comme quoi, voilà, encore une fois, croyance limitante. Donc, il y a eu des moments très rudes, mais ça a été une super année aussi parce que j'avais tout d'un coup l'occasion de prendre du temps pour moi sans culpabilité. Je dis ça parce que moi, j'ai deux enfants qui sont encore jeunes. J'ai des jumeaux qui ont 7 ans. Donc, quand on est maman, le temps pour soi est quand même une denrée très, très rare. Voilà. Et du coup, ben là, j'avais décidé, en étant malade, de lever le pied, d'arrêter de travailler. En fait, j'avais quasiment complètement arrêté de travailler, ce qui me donnait du temps que pour moi, mon petit nombril et ma petite personne, ce qui n'est vraiment pas quelque chose auquel j'étais habituée. Et en fait, ça m'a fait un bien incroyable, quoi.
Dans nos sociétés, c'est vrai que c'est mal vu, presque, en fait.
Oui, absolument.
Prendre autant de temps pour soi, il faut une maladie, finalement.
C'est ça. Et c'est pour ça, voilà, que je dis sans culpabilité, parce que là, pour le coup, personne de l'extérieur ne pouvait me faire le reproche de prendre ce temps-là pour moi. Et surtout, je ne pouvais pas m'en faire à moi-même le reproche, parce que moi, je suis ma pire ennemie, hein, comme beaucoup d'entre nous.
Voilà.
Tyran, c'est un bon mot. Ouais, merci. Et là, du coup, le tyran pouvait rabaisser son claquet. Hein, je savais quoi lui répondre. Je lui disais, écoute, j'ai un cancer du sein, fais pas chier, quoi. Voilà.
Laisse-moi tranquille.
Voilà, oui, c'est ça.
Cette petite voix, donc justement, pas celle qui nous aide, mais l'autre, celle qui nous
tient
vers le bas.
Ouais.
Là, c'était plus facile de la faire taire.
Ah bah là, du coup, elle avait plus rien à dire. Et du coup, elle s'est beaucoup tue cette année-là. Et c'est pour ça que ça a été une année forte et très puissante, en fait. Parce que j'ai pu, je l'ai pas fait avec cette idée-là de, je vais me reconnecter à moi-même, savoir ce que je veux et tout ça. C'était pas, mais je me suis octroyé du temps pour aller marcher dans les vignes. Ça, c'était quasiment tous les jours, puisqu'à l'époque, je vivais dans le Beaujolais. Donc, du temps pour aller marcher dans les vignes, du temps pour méditer, du temps pour écrire, du temps pour lire. Et du temps aussi, bien sûr, pour aller voir les thérapeutes alternatifs qui m'ont vachement aidée. Et ben oui, voilà, qui m'ont beaucoup aidée à l'époque.
Tu es allée voir une magnétiseuse, il me semble, notamment.
Alors c'en est une, et très importante d'ailleurs dans tout le parcours, mais c'en est une parmi, je sais pas, franchement, j'ai pas tenu la liste de tous ceux que j'ai vus cette année-là, mais j'en ai vu beaucoup, beaucoup, mais c'était génial. Et c'était nécessaire, en fait. Hein, enfin,
bien sûr. Corps et esprit.
Absolument.
Pour qu'on soigne, et donc, les deux, la résilience est plus rapide.
Bah, bien sûr. Et puis surtout, je pense que c'était pas conscient comme ça, mais je pense que ça m'a permis de me sentir vraiment complètement actrice de ma guérison, quoi. J'attendais pas. Bien sûr, j'ai suivi tous les protocoles de traitement qu'on m'a donné. Il n'était pas question de remettre ça en question, mais par contre, moi, je faisais ma petite popote à côté avec mes thérapeutes, et puis moi avec moi, à travers les méditations et tout ça. Et du coup, je me sentais pleinement actrice. Je me sentais pas subir la maladie, quoi. Je me sentais pas victime de ça. Je sentais qu'au contraire, ça me donnait un élan pour être pleinement les deux pieds dans ma vie, quoi.
C'est vraiment beau, parce que on serait tenté de tomber dans la victimisation avec ce type d'expérience.
Bien sûr, et franchement, je peux comprendre si t'as pas d'outils. Et quand je parle d'outils, vraiment de spiritualité, de philosophie dans ton rapport à la vie, si t'as pas ça, eh ben je peux comprendre que ce soit horrible. Et je me rappelle, tu vois, j'ai le souvenir d'un jour à l'hôpital en chimiothérapie, parler avec une femme qui devait avoir mon âge, et c'était horrible pour elle, parce que du coup elle subissait complètement ça. Et donc, elle était très, très malheureuse. Elle disait, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai 40 ans, tu te rends compte? Et puis, j'ai mon enfant qui comprend pas ce qui se passe. Et puis. Et je voyais bien le désarroi dans lequel elle était. Et je comprenais, en plus. Enfin, je veux dire, bien sûr que sur le papier, un cancer à 40 ans, c'est pas cool, quoi. bien sûr.
Oui, ça fait peur, ça fait vraiment peur.
Et, voilà.
C'est, je pense qu'au plus on cherche une explication et au pire c'est.
Voilà, oui.
À mon avis, au moins tu l'acceptes comme toi tu as pu le faire, notamment en te remettant en question et en ayant plusieurs prises de conscience.
Oui.
Je pense que c'est effectivement le meilleur moyen de voilà, de pas trop l'écouter non plus, cette victimisation.
Oui, avec quand même une nuance par rapport à ce que tu dis. Moi, très très vite, et encore une fois, c'est ma recette à moi et je ne suis pas du tout sûre qu'elle s'applique à tout le monde, mais dans mon cas, j'ai eu besoin de mettre du sens sur ce que je vivais. Tu vois, je me disais, tiens, ça m'interpelle, pourquoi est-ce que j'ai un cancer du sein ? Qu'est-ce que dans mon histoire, ça...
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà,
oui.
Qu'est-ce que ça raconte de mon histoire, de ce que je n'ai pas réglé et tout ça ? Et donner du sens, pour moi, c'était important. Et encore une fois, c'est ma recette, hein. Pour moi, c'était important et ça m'a beaucoup aidée.
Oui, mais en fait, moi, je fais une distinction entre essayer de comprendre pourquoi moi, c'est-à-dire comme si il y avait une condition extérieure qui venait nous punir quelque part, et le pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire sur moi ? Et là, j'ai attiré ça finalement ? C'est-à-dire pourquoi et pour moi, c'est deux choses différentes, voilà. C'est plutôt dans l'autre sens.
Je comprends.
Que je voulais dire. Toi, effectivement, d'accord. La quête de sens, elle est vraiment, c'est une prise de conscience. On va te dire, pourquoi j'ai attiré cet épisode-là? Est-ce que la vie n'est pas en train de me dire de prendre soin de moi ou de, voilà.
C'est ça.
C'est effectivement
exactement.
Une quête de sens qui est saine, finalement.
Oui.
Où l'autre
oui,
est
oui.
beaucoup plus, tu vois, pourquoi moi, en mode punitif, en fait.
Oui, c'est ça. Et alors, vraiment, c'est important peut-être de le préciser, mais réfléchir à pourquoi est-ce que j'ai un cancer et potentiellement, pourquoi je l'ai déclenché. Enfin, c'est ce qu'on dit un peu entre les lignes. C'est pas du tout un exercice culpabilisant. Et pourtant, moi, je suis hyper forte en culpabilité. Mais alors, ça, là-dessus, je l'ai jamais perçu comme ça. Et au contraire, je me disais, mon corps, il est vraiment canon parce que lui, il sait qu'il y a un truc qui va pas. Et là, il est en train de me le signifier. Certainement qu'il a essayé de me le dire avant. J'ai pas entendu. Bon, ok. Et il est formidable parce que là, il est en train de me dire, là, Herveline, t'as pas voulu m'entendre? Ma cocotte, je te raconte ce que j'ai sur le cœur, quoi. Et du coup, je trouvais ça formidable, quoi.
Et oui, c'est la beauté de... Finalement, ouais. c'est la beauté de l'expérience, c'est que tu as réussi à t'en servir.
Oui, complètement.
Et à mettre en œuvre cette quête de sens, d'ailleurs.
Oui, du coup. Et encore une fois, sans que tout ça soit anticipé, je pense que tu fais référence à la petite voix quand tu me dis ça. Effectivement, l'histoire de la petite voix... Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc pendant ce cancer du sein, je marchais beaucoup et souvent. Et donc souvent, quand je marchais, j'écoutais des podcasts. Et vraiment, moi, ça m'a vachement aidée pendant les traitements. J'écoutais des choses qui m'aidaient justement à y voir clair dans la maladie et tout ça. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts. Et puis comme je t'ai dit, je voyais beaucoup de thérapeutes. Et puis un jour, je ne sais pas comment, mais tout ça s'est mixé. Et puis j'ai eu l'idée de faire un podcast sur les thérapies alternatives et avec des thérapeutes. Mais j'ai bien senti que là, ça me dépassait un peu cette idée. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est tombé dessus un jour et surtout, c'est devenu obsessionnel. En fait, dans les jours qu'on suivit, je n'arrivais plus à dormir et tout ça, tellement j'avais hyper envie de faire ce truc.
Enfin, oui.
C'est même pas que j'avais hyper envie.
C'est l'excitation du projet qui est à son paroxysme.
Ouais, mais c'est comme un élan où tu n'as pas le choix, tu vois.
Oui,
et d'ailleurs,
tu as vraiment envie d'essayer. Là, c'est plus fort que toi, oui.
Je sentais bien que... Il y avait un truc là qui m'appelait, qui me dépassait certainement, à tel point qu'en fait, je ne me suis pas beaucoup posé la question de « Oh là là, j'ai jamais parlé derrière un micro, oh là là, les interviews j'en avais faites dans le cadre de mon boulot, mais qui étaient à l'écrit, donc ça n'a rien à voir avec à l'oral. » Je ne me suis pas posé toutes ces questions-là, en fait, parce que ça s'imposait à moi. Donc ça, c'est formidable quand ça vient de plus haut. Du coup, il n'y a plus beaucoup de croyances limitantes. Tu vois,
c'est que là, tu as écouté ton intuition et
voilà.
Tu as cessé de faire confiance à ton mental, en fait.
Oui, voilà, exactement.
Parce que là, c'était une situation où le mental te desservait, de toute façon.
Mais bien sûr, et comme depuis le début, avec ce cancer, quand même, on l'a bien vu que j'avais réussi à le mettre un peu de côté. Bon, là, du coup, tu vois, ça m'a ouvert comme une voie royale où j'avais le droit de faire un truc qui me plaisait. En tout cas, qui me parlait, puisque à l'époque, je ne savais pas si ça allait me plaire, mais C'était tellement évident, en fait, ça m'est tellement tombé dessus comme un truc qui s'aligne, tu sais, clac, 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 et voilà quoi.
Ah bah c'est beau, c'est super.
Ouais, c'est chouette.
Je pense que c'est le meilleur moyen justement pour inspirer, c'est quand peu importe les obstacles qu'on peut voir. Alors oui, notre mental nous en informe, il nous dit tu sais que là tu sais pas enregistrer, tu sais que là tu n'as jamais vraiment parlé derrière un micro.
Ouais, oui,
mais c'est pas grave, je t'écoute pas parce que je sais que c'est plus fort que moi et de toute façon voilà. Si j'essaye pas, je serais malheureuse de ne pas essayer.
Voilà. Donc, bah oui, et tu sais de quoi tu parles. Toi qui es en train de lancer ton podcast, bah voilà, donc c'est génial. Exactement. De réussir malgré tout à se dire qu'en fait, ok, bah très bien, il y a des craintes et tout ça, bah why not, mais ça n'empêche pas de le faire et je pense que c'est le point des croyances limitantes. En fait, bien sûr qu'on en a et on en aura toujours, donc c'est pas grave d'en avoir. Ce qui compte, c'est qu'elles nous empêchent pas de faire les choses.
Exactement, et qu'elles ne soient pas fixes. Surtout parce que c'est l'inconscient, il a une tendance à vouloir généraliser, il a une tendance à vouloir un avis sur tout, à se faire une idée sur quelque chose pour se
bien
sécuriser.
Bien sûr.
Mais en fait, il ne demande qu'à être remis en question. Et c'est
oui.
Là où c'est important pour nous de prendre conscience de ces croyances-là.
C'est ça.
Pour se dire, et si c'était faux ?
Et c'est ça. Tu vois ? C'est ça.
Et si c'était faux, et si finalement, tu vois, le dicton jamais 203, si finalement, en fait,
et si c'était
ça n'a pas
faux
de sens.
Ouais.
Tu vois
ouais. En fait, c'est juste ce que tu dis, c'est réussir à toujours faire ce pas de côté pour essayer de voir les choses sous un angle qui n'est pas celui que notre mental a envie d'envisager.
Exactement.
Observer. Exactement. Ouais.
Et alors, aujourd'hui, quel est ton challenge actuel, le risque que tu souhaiterais prendre ou, et par quoi serais-tu freiné ?
Oh là là, ben alors là, j'ai les deux pieds dedans et même plus encore là-dedans. C'est que donc la petite voix, j'ai eu l'idée il y a 3 ans. Elle est lancée depuis plus de 2 ans et demi. Et là, je sens bien que ce projet déborde. De toute façon, ça déborde depuis le début puisque c'était un projet. C'est un projet que j'ai mené ces 3 dernières années en plus de mon travail et de ma vie de famille. Mais par contre, disons que pour un side project, il a toujours pris beaucoup de place, pas uniquement dans mon emploi du temps, ce qui est déjà une chose, mais dans mon cœur, dans ma tête, quoi. Voilà, je sens bien que mon énergie, elle est complètement vers la petite voie. Et là, j'ai senti là en début d'année que qu'il était temps que j'accepte ça, en fait, et que j'accepte et que je fasse moi-même la bascule, en fait, parce que je passe mon temps à attendre le micro à des thérapeutes qui m'expliquent qu'à un moment de leur vie, ils n'étaient pas alignés, et puis ils sentaient bien qu'ils n'étaient pas bien, et puis ils avaient peur, mais en même temps, il fallait y aller, donc ça a été douloureux et tout ça. Et en fait, ben, y a un moment où moi, je ne peux plus ne pas écouter ma propre petite voix. Voilà. Et là, depuis le début de l'année, elle pousse un peu fort pour me dire, Herveline, là maintenant, c'est bon. Voilà, arrête de te cacher et assume le fait que en fait tu as envie de vivre de la petite voix, pas
super.
Ouais, pas pour gagner des milliers des cents, mais parce que
non, mais pour vivre, c'est pour en vivre
ça,
tout simplement.
C'est ça. Oui, parce qu'en fait, la problématique c'est de me dire ben si je veux être pleinement heureuse et épanouie dans ce que je fais, bon, j'ai la chance, j'ai trouvé hein, moi je sais où je suis heureuse hein, je suis ben, là où je suis là, derrière mon micro, tu vois. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, en fait, il faudrait que je puisse consacrer tout mon temps à la petite voix ou quasiment. Bon, et ben, ok. Donc, si je consacre tout mon temps, ça veut dire que j'ai plus de revenus à côté. Donc, ben, il faut que les revenus viennent de la petite voix. Voilà, c'est ça la démarche. Parce que j'ai plein d'envie, j'ai envie de faire plein de choses. Donc là. Écoute, je suis vraiment dans cette, dans ce, donc tout ça, ça a quand même bouillonné beaucoup depuis le début de l'année. J'ai tourné autour, comment je vais faire, enfin toutes les questions. Il y a du mental, bien sûr, qui met des obstacles dans le truc, mais il y a aussi des questions très pratiques, quoi. Ok, bah comment on vit de son podcast, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et donc, ça a commencé à prendre un peu forme là, il y a 2 mois. Ouais, pas beaucoup plus en fait. Voilà. Et là, je suis en train de lancer la prochaine saison, la saison 4. Et donc, l'idée, c'est maintenant de faire évoluer la petite voix pour qu'elle soit évidemment un podcast, et ça ne changera pas, les entretiens avec les thérapeutes et tout ça, mais j'ai envie de faire plus que ça. Et donc, tu vois, je commence à organiser des lives pour rencontrer les invités, prolonger l'échange avec eux. Après la diffusion de l'épisode, j'ai envie d'organiser des cercles de parole. Je réfléchis aussi à proposer des services, mais tout ça est vraiment très embryonnaire. En fait, je suis pile. En fait, tu sais là où je suis là, je suis au bord de la falaise et je suis en train de donner la petite impulsion pour sauter.
Donc, ah, j'ai très peur. C'est formidable. Voilà.
Oui, c'est formidable. C'est très flippant. Hein.
Voilà, c'est à la fois le meilleur et le pire moment, je crois.
Oui, voilà. Et eh ben, tu
parce
sais,
que,
voilà,
enfin, on se lance, mais ouais. On a plein de. En fait, on est en insécurité dans ce moment-là.
Complètement. Ah ben alors là, bien, oui, c'est exactement ça. C'est très, c'est enthousiasmant, tu vois, parce que là, déjà, ces dernières semaines, j'ai pu consacrer beaucoup plus de temps que d'habitude à la petite voix, et je vois bien combien. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse de ça, vraiment. Et puis le fait d'organiser des lives, du coup, je suis plus en lien avec mes invités, on se reparle et tout ça, et ça, je vois bien que j'aime beaucoup, beaucoup ça aussi.
Ah, c'est super.
Donc, sans surprise, en fait, hein, bien sûr que j'aime faire ça. Maintenant, est-ce que ça va trouver un écho? Eh ben, là, ça dépend plus seulement de moi. Ça va dépendre des personnes qui écoutent. Est-ce qu'elles vont vouloir aller un petit peu plus loin ou pas dans l'aventure? Voilà, ça va dépendre maintenant. Tu sais, c'est un peu comme si je me présentais. J'ai un peu l'impression d'être à poil. Et puis, ben, on va voir où ça va m'emmener. Mais au moins, j'aurai pas de regrets.
J'espère que ça va t'emmener loin, en tout cas. Merci. Et que ce projet est illimité.
Oui, en tout cas, moi, dans ma tête, les possibilités sont effectivement illimitées. Maintenant, voilà, il y a aussi la réalité, notamment économique. Est-ce que ça va coller? Voilà, les prochains mois me le diront.
Te le diront, oui. Ou alors de changer de stratégie si ça colle pas.
Oui, absolument. Ah bah oui, bien sûr. Non mais tu sais, je suis hyper têtue, donc si les idées que j'ai là ne prennent pas, c'est pas très grave. J'en trouverai d'autres. Voilà.
Ah bah, c'est une bonne qualité d'être têtue dans ces cas-là.
Oui. Ça a du bon parfois.
Alors, et pour la question finale donc, ouais. du podcast,
ouais.
penses-tu que nous sommes, en tant qu'êtres humains, illimités?
Mais bien sûr! Mais évidemment!
Ah, super! Bah, avec oui. enthousiasme!
Mais oui! Ah, mais oui, bien sûr! On se donne plein de limites, tout ça, ça c'est vrai, bien sûr, mais en vrai, au départ, dans notre nature profonde et la plus... défaite de tous nos conditionnements, mais bien sûr que tout est possible, évidemment, pas n'importe comment. Voilà, il s'agit pas de. C'est pas parce que la vie nous offre des possibilités infinies que tout va nous tomber tout cru dans le bec. Hein. Enfin, tu vois, moi je peux parler à mon guide ce soir et lui dire bon, bah maintenant, mon guide, j'aimerais faire, 10 000 euros par mois avec la petite voix. Ça marchera pas, je vais pas me lever demain matin avec 10 000 euros sur mon compte en banque, tu vois.
Bah,
c'est
non,
un,
non, aussi, bien
un vrai
sûr.
Travail. Et le travail oui. fait complètement partie du process. Mais bien sûr que c'est illimité et nos possibilités sont illimitées. Et c'est drôle, tu me poses cette question-là au moment où, en ce moment, je suis dans un cycle, tu sais, les cycles de méditation, là, 21 jours avec Deepak Chopra sur le thème de l'abondance.
Ah,
donc
ah,
oui, voilà, évidemment. Voilà.
Bien sûr, oui.
L'abondance, en fait, c'est ce qu'il explique très bien. L'abondance dans la nature, elle existe de manière totalement naturelle. Un arbre ne se demande pas s'il va pousser, une fleur ne se demande pas si elle va éclore. Tout vient dans la nature en abondance, c'est qu'on est quand même livré comme ça au départ. Donc à nous de retrouver cette nature-là, voilà.
Exactement, et parfois l'abondance n'est pas là où on pense
Absolument.
Qu'elle devrait être.
C'est tout à fait
la vie
juste.
Est surprenante. Moi, je l'expérimente beaucoup au Brésil,
et oui.
où je sens que, bon, déjà, du point de vue des fruits et des légumes,
ben
c'est
oui. en termes d'abondance, là,
génial. Hein. Là, on est en plein dans l'abondance, mais aussi également dans l'aspect communautaire. En fait, je retrouve une forme d'abondance de joie.
Ah, génial.
Dans les chants, dans les danses, dans les.
Oh.
En fait, c'est simple finalement. Enfin, c'est pas si simple parce qu'ils connaissent tous les paroles de toutes les chansons.
C'est génial.
Et mais c'est j'appelle ça l'abondance parce que finalement, ouais. Il suffit pas de grand chose pour ressentir cette joie et pour se sentir vraiment, tout simplement, hyper heureux, en fait.
Oh là là.
Ça me fait sourire très naturellement quand je suis avec eux. Ouais. Ouais.
Ah, c'est génial. Oh là là, tu me vends du rêve, moi qui suis confinée depuis 3 semaines en mode durée indéterminée encore. Donc là, écoute, tu sais quoi, je ferme les yeux et j'y suis, quoi. Oh, j'ai trop envie.
Oui, je te partagerai toutes mes photos, toutes mes vidéos si tu le souhaites.
Avec plaisir.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Herveline, pour ce podcast super inspirant.
Merci à toi de m'avoir reçu.
Ça m'a beaucoup appris et je suis très heureuse de t'avoir reçu.
Bon, eh ben, écoute, Anaïs, merci beaucoup et puis longue vie vraiment à ton podcast. C'est,
Merci, au tien aussi. Hein. Je tiens à ce qu'il fleurisse d'autant plus.
Merci beaucoup.
Retrouvez les Destins Flottants sur Instagram et Facebook. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Quelque chose qui me tient à cœur également, n'hésitez pas à me partager les croyances limitantes que vous pensez avoir. Nous pouvons en discuter. Merci infiniment. À bientôt.